BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et avec Mathieu Guider. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Mathieu Guider, professeur des universités, islamologue, agrégé d'arabe, auteur de La guerre des islamismes et l'atlas du terrorisme islamiste. Précieux, rempli de cartes, hein, bourré de croquis, très utile. Et on en reparlera tout à l'heure à propos de Kaboul, à propos de l'Égypte, de Bagdad également. Jean-Luc Sauron, bonjour.
Bonjour.
Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris-Dauphine, qui nous dit en permanence, faites l'Europe, pas la guerre. Alors, ça faisait des jours, hein, ça faisait des semaines hein, qu'il tergiversait justement à propos de cet accord. Donc, ONI, pendant la campagne, l'accord de Paris, l'accord de la COP21, justement, unanimement salué pour tenter d'endiguer le réchauffement de la Terre, le réchauffement climatique. Finalement, jeudi soir, eh bien, Donald Trump a tranché.
J'ai été élu pour représenter les citoyens de Pittsburgh, pas de Paris. Les États-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat.
Alors, il veut se retirer, il veut négocier exactement un nouvel accord. Fin de non-recevoir des autres hein, signataires. Consternation dans le monde, notamment eh bien, celle du Français Emmanuel Macron. Intervention à la télévision, quasiment en pleine nuit. Hein, il était beaucoup plus que 23 heures. Macron, donc jeudi soir.
Ce soir, les États-Unis ont tourné le dos au monde. Mais la France ne tournera pas le dos aux Américains.
Ouais, et pour bien se faire comprendre, justement, et pour tenter d'attirer des Français pour travailler sur le climat, message en anglais d'Emmanuel Macron, donc à l'heure des grands JT américains.
I call on you to remain confident. We will succeed. Make our planet great again.
Oui, alors ça sera la formule de la semaine, et peut-être plus, bien entendu, ça a déjà fait le tour du monde. Hein. Alors, au-delà de la déception que Donald Trump suscite, au-delà de ses raisons politiques intérieures, hein, bien sûr, avant tout, il pense à ses électeurs, vous l'avez entendu, le Trump, ceux de Pittsburgh, et d'ailleurs, comme si d'ailleurs il n'était pas aussi concerné par le réchauffement climatique, au-delà même des erreurs économiques qu'il commet, puisque Pittsburgh, par exemple, a réussi sa reconversion dans les services, dans les énergies vertes, au-delà même des incidences sur l'ensemble de la planète, l'Amérique de Trump, tiens, Jean-Luc Sauron, est-ce qu'elle choisit de se replier sur elle-même, d'abandonner en quelque sorte son leadership?
Ben, je crois que sur les déclarations de Trump d'hier, je crois qu'il faut voir d'abord qu'il est mal informé, car en réalité on a l'impression que lorsque, comme au début de son mandat, il signait comme ça et ça suffisait pour, il ne se rend pas compte que l'accord de Paris prévoit 3 ans à partir de 2016 pour sortir, plus un an de préavis, si je puis dire. C'est-à-dire que la décision américaine n'aura d'effet qu'après la prochaine campagne présidentielle américaine.
Bon, alors ça, c'est l'accord sur le climat. Mais au-delà de ça, simplement, j'aimerais qu'on élargisse un peu. Est-ce que oui ou non, les États-Unis choisissent de se replier sur eux-mêmes, Jean-Luc?
Je crois qu'après American First et American Alone, puisque quand même les deux États qui n'ont pas signé l'accord, c'est le Nicaragua et la Syrie. Ouais. Maintenant, il y a les États-Unis, donc c'est quand même un peu rude comme comparaison. Et la Russie a annoncé dès vendredi qu'elle maintenait, bien évidemment, sa présence. La Chine et l'Union européenne ont signé jeudi soir, quasiment concomitamment, une déclaration de soutien. Non, le vrai enjeu, c'est de savoir si des pays qui devaient toucher des fonds pour les aider à tenir le choc de cet effort, les toucheront, parce que les Américains devaient payer 3 milliards sur les 10 milliards du fonds, et là, ils n'ont payé qu'un milliard. Est-ce qu'ils vont bloquer les deux autres milliards ou pas? Ça peut imputer des États comme l'Indonésie ou l'Inde peuvent s'interroger.
Oui, bien sûr. Mathieu Guider, ça donne une idée de ce à quoi va ressembler la diplomatie américaine à partir de maintenant, sous Trump?
Oui, je crois que ce n'est pas d'abord la première fois qu'il fait ce type de déclaration. Là, c'est une décision tout de même qui est de son propre ressort. Je crois qu'on ne voit pas derrière les enjeux économiques. Ce n'est pas juste une question de planète pour Trump. C'est un homme d'affaires à la base. Et il a toujours une réflexion, je crois, une approche. Il l'a prouvé en particulier lors de son dernier voyage en Arabie Saoudite, il a prouvé que pour lui, les affaires internationales, plus sincèrement, plus précisément les relations étrangères, les affaires étrangères, sont essentiellement des affaires économiques avant tout. Il a une approche plus économique, on va dire financière de ces affaires-là.
Et la parole des États-Unis est démonétisée, oui ou non? Est-ce que les 195 pays signataires ont l'impression d'avoir été trahis?
Je pense que oui, les pays, comme ça a été dit, enfin la comparaison est terrible, les États-Unis se rangent dans le camp des trois pays, le Nicaragua et la Syrie, mais derrière, je crois qu'on peut négocier la chose, c'est un homme d'affaires, donc il faut juste lui dire qu'il ne paiera pas aussi autant qu'on lui demandait, parce que là, il y a un problème quand même, les États-Unis, en raison de leur poids, payent énormément dans la COP21. Et puis, deuxièmement, il doit y avoir des contreparties financières qui sont tout à fait négociables. Ce n'est pas un idéologue, c'est vraiment un homme d'affaires qui gère les États-Unis comme si c'était une société, en fait.
Et qui n'a plus envie de payer comme avant. Oui. Il réduit ses subventions à l'ONU. Mmh. On reparlera tout à l'heure de la défense européenne, bien entendu. Jean-Luc Sauron, les États-Unis, donc, renoncent clairement à être le chef de tout, le leader mondial de tout.
Oui, et surtout que ça permet l'émergence, alors c'est encore à définir et à renforcer, d'un axe Union européenne-Chine, qui à mon avis pesait dans la décision de la Russie de dire je maintiens présence dans l'accord de Paris,
dans l'accord, bien sûr,
pour pas laisser pour pas rejoindre les États-Unis dans la marginalisation,
bien sûr.
Et pas laisser l'axe sino-européen se monter en puissance. Non, mais c'est drôle. Il marginalise les États-Unis.
Hein. C'est vrai, vous avez raison. Très rapidement, jeudi soir, c'est vrai qu'il y a eu une avalanche de communiqués, de scandales, consternations. Hein. Communiqué commun de Berlin, de Paris, de Rome, déclaration télévisée, donc en pleine soirée d'Emmanuel Macron, je le citais, on l'a entendu tout à l'heure. Les Européens, ils ont une carte à jouer, Jean-Luc Sauron, donc, pour prendre le relais, donc après le retrait américain.
Une carte à jouer, maintenant il faut y aller. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit Angela Merkel le week-end dernier, à partir du moment où il y a un sentiment de faiblesse, de grande faiblesse sur les États-Unis, leur seule alternative, c'est de prendre en main, ce qu'a dit Angela Merkel, prendre en main leur destin.
On va l'entendre d'ailleurs dans un instant, là,
et, des questions de défense. Ouais. C'est vraiment quelque chose de... Oui, mais au-delà.
Bien sûr.
Et ça qui est vraiment extrêmement intéressant.
Ça reste une affaire de gros sous, j'insiste là-dessus. Ça reste une affaire de gros sous, c'est-à-dire on peut faire toutes les déclarations possibles imaginables de tous les pays du monde, du 194 pays peuvent faire toutes les déclarations qu'ils veulent. À la fin, c'est qui va payer, qui va remplacer les 2 milliards en particulier pour l'Inde et l'Indonésie, qui sont des gros... Enfin, on leur promet beaucoup de choses. Or, l'Inde, si par hasard l'Inde ne tient pas ses responsabilités, c'est catastrophique. La Chine également. Il y a un deal particulier avec la Chine qui est particulier. Donc, si l'Europe ne dit pas « je mets dans le pot commun les 2 milliards », ça ne changera strictement rien.
On n'en a pas les moyens. Si, oui ou non, Jean-Luc Sauron ?
2 milliards d'euros.
2 milliards d'euros, ça va ?
Si, l'Europe a les moyens, l'Europe a les moyens, mais je veux dire, quand on voit le discours d'investiture de Barack Obama, premier mandat, centré sur les industries vertes, et qu'on voit que le premier acte international du président Trump, c'est de tourner le dos à l'économie du 21e siècle, parce que c'est vraiment, il reste sur le fossile, sur le charbon, etc. Là aussi, vos reportages le disent, il y a une très grande rupture interne aux États-Unis, il y a beaucoup d'industriels américains qui disent, mais c'est de la folie.
C'est de la folie. On a
sur le plan idéologique, ce qui est intéressant, c'est qu'il est d'accord avec l'État islamique. L'État islamique, il était contre déjà la COP21, et il est contre tout ce qui est, il est climato-sceptique, il est contre tout cela. Ils se rejoignent, en fait, idéologiquement.
Mathieu Guilherme, pardon, mais on peut pas mettre l'État islamique au même rang que les autres États.
Non, je parle du point de vue positionnement idéologique, parce
positionnement
qu'on parlait de quelqu'un du XXe siècle qui n'est pas entré dans le XXIe, qui est sur une idéologie plutôt de positionnement ancien. On est sur une rencontre entre deux idéologies du XXe siècle, en fait.
Et les Chinois, les Chinois aussi se positionnent. L'autre gros pollueur de la planète, ceux qui avaient donc contribué avec les États-Unis au succès de cette conférence de Paris de fin 2015. Ce vendredi, d'ailleurs, l'Union européenne et la Chine étaient réunies à Bruxelles en sommet. Ils marquaient tous deux, elles deux, leur envie donc de porter le flambeau. Li Keqiang, c'est le premier ministre chinois. Il était à Berlin justement, jeudi après-midi, avec la chancelière fédérale Angela Merkel.
La Chine va continuer à mettre en œuvre les promesses faites lors de l'accord de Paris, mais bien sûr, nous espérons aussi le faire avec la coopération des autres.
Donc la Chine veut jouer sa partition aussi. Oui. Là aussi, ils ont une belle carte à jouer.
La Chine sent qu'elle a un rôle historique à jouer. L'accord sur le climat, l'affaiblissement, on le parle peut-être de tout à l'heure, de l'OTAN, l'économie. Enfin, ce qu'il y a aussi quand même à Davos, le président chinois qui s'est transformé en VRP du libéralisme économique et du commerce mondial.
Bien sûr. Ouais.
Non, mais enfin, c'est quand même pour ceux qui ont un peu de mémoire.
Sur
on est quand même un peu dans un autre monde. Et ça, je crois que c'est quelque chose de majeur, où il y a un tournant qui se passe.
Ah, Mathieu Guider.
Moi, je me demande, il y a une occasion à saisir parce que depuis longtemps, on parle d'un nouvel ordre mondial, d'une alternative en tout cas à cet ordre mondial. Si vraiment là, l'Europe se construit réellement, c'est-à-dire qu'elle devient en quelque sorte les États-Unis d'Europe et qu'elle s'allie avec la Chine, c'est tout à fait possible. Les États-Unis peuvent, à cause de ou grâce à Trump, peuvent parfaitement perdre leur leadership mondial et on peut parfaitement, on est en 2017, ça c'est le tournant en fait où les États-Unis sont devenus vraiment la grande puissance mondiale, c'est 1917, hein, c'est la guerre.
Exactement, bien sûr.
C'est la guerre.
L'entrée dans la première guerre.
Donc là, il y a un tournant, on le sent, tout dépendra des acteurs internationaux, en particulier des deux, la Chine et l'Europe, comment ils vont saisir cette occasion.
Ce qui est quand même fascinant, c'est la rapidité d'évolution de la situation. Il y a encore 3 mois, c'était le Brexit, la montée des populismes et l'impression d'un consortium américano-russe sur l'Europe. 3 mois après, on a l'élection d'Emmanuel Macron qui a l'air d'inverser la vague sur le populisme. Les Américains qui partent dans une autre planète. Hein. La phrase du président Macron, il n'y a pas de planète B, c'est pas que de la com, il y a quelque chose de bien. Et les Russes qui étaient à déstabiliser, le bloquer, etc. Tout ça se maintient, mais on sent que les cartes se rebattent en permanence et très vite.
Tout va vite. Et le grand froid, d'ailleurs, on l'a vu, hein, donc c'était le week-end dernier, donc à l'occasion des rencontres de l'OTAN à Bruxelles et puis du G7 à Taormina, le grand froid entre Donald Trump et l'Europe. Hein, on l'a senti donc à l'occasion de ces deux sommets. Méfiance exprimée notamment par Angela Merkel, notamment sur les questions de défense.
L'époque où nous pouvions entièrement compter les uns sur les autres est quasiment révolue. C'est mon expérience de ces derniers jours. Nous, Européens, devons prendre notre destin en main. Notre amitié avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni, notre bon voisinage avec la Russie, aussi avec d'autres pays, cela compte bien sûr. Mais nous devons savoir, nous devons nous battre pour notre propre futur, pour notre destin. Et j'aimerais faire cela ensemble avec vous.
Voilà, Angela Merkel, donc, devant les congressistes de la CSU. Jean-Luc Sauron, pourquoi elle dit ça? Elle sait, elle a compris que Trump, éventuellement, ne viendrait pas défendre l'Europe en cas d'agression, par exemple, qu'il faut se prendre en main, notamment en matière militaire?
Il l'a clairement dit, Trump a clairement refusé de s'engager pendant le sommet de l'OTAN sur l'engagement automatique des États-Unis, qui est pourtant une des forces.
Bien sûr, l'article 5 de la charte.
Donc ça, je crois que ça a surpris tout le monde. Et je crois surtout que c'est un tournant, parce que les Français sont toujours connus pour un atlantisme faible. Les Allemands, c'est le pilier atlantiste de l'Europe depuis 1945. Et là, c'est un tournant invraisemblable.
Parce que la déception, elle vient principalement d'Allemagne, j'ai l'impression, c'est ça?
Enfin, pour les Allemands, ils sont... Les Allemands, pourquoi il y a eu un non-investissement militaire des Allemands? C'est que, après la Seconde Guerre mondiale, compte tenu du choc de la population allemande, ils ont totalement remis dans les mains des États-Unis leur protection. Là, ils se rendent compte que ce n'est plus automatique, ça c'est important, et ça a même des traces économiquement, parce que, un temps, le flux hors Europe, UE, le flux économique était Allemagne-États-Unis, c'était leur premier client extérieur à l'Europe. Aujourd'hui, ça baisse et ils s'européanisent ou ils rediffusent vers l'Orient. Mais donc, il y a également un décrochage économique entre ces deux alliés très forts.
Mathieu Guider.
En fait, c'est pire que cela, je pense. L'Allemagne est face à un dilemme parce que non seulement il n'a pas dit qu'il allait s'engager éventuellement si l'Allemagne était agressée ou l'Europe, mais en plus, il demande à l'Allemagne de payer pour les 60 000 soldats. Il y a encore, c'est pas très, les gens ne le savent pas, mais il y a encore 60 000 soldats américains sur le sol allemand. C'est-à-dire, il y a énormément de bases
aériennes. Oui, bien sûr.
C'est le principal centre de commandement américain pour l'Afrique et pour l'Europe là-dedans. Et Trump est venu en Allemagne pour demander à Angela Merkel de payer pour ça. Il lui a dit, je ne vais pas assurer ta sécurité gratuitement. Donc Angela Merkel se retrouve face à son principal allié qui était censé l'assurer, et en plus qui lui demande de l'argent.
Vous pensez que Merkel, elle va s'appuyer davantage sur Macron pour faire parler l'Europe, justement, pour imposer l'Europe, Jean-Luc Sauron?
Mais je crois que elle est en recherche d'alliés. Alors, il ne faut pas non plus sous-estimer que Trump et je dirais Macron un autre, lui rendent un service énorme sur sa campagne électorale interne. Hein, je rappelle encore, très vite, il y a 5 mois, elle est en perte de vitesse.
Ah oui.
3 élections régionales perdues par le SPD, dont une région historiquement tenue depuis la guerre par le SPD qui est tombée. Donc elle reprend du poids. Et là, ça crédibilise, je dirais, l'axe franco-allemand qui reprend un autre sens. Axe franco-allemand qui s'appuie d'ailleurs sur 2 têtes de pont méditerranéennes, l'Espagne et l'Italie. Mais, tout ça est fragilisé par la réussite des réformes économiques en France. Ça, c'est quelque chose qui est... Je rappelle que le dernier rapport de la Commission nous maintient la France dans la procédure déficit excessif avec des observations assez sévères.
Bien sûr, bien sûr.
Et les Allemands, je dirais, attendent vraiment que la première réforme du quinquennat, celle du droit du travail, fonctionne pour se sentir libérés et se dire « Ok, on monte la machine ». Et je crois que c'est l'Europe est vraiment à un moment... Je sais que... On peut entendre ça dire, l'Europe, c'est le tournant ou c'est la fin. Ça peut un peu saouler tout le monde.
Non, c'est un nouveau départ.
Mais là, il y a vraiment un sentiment qu'on démarre.
Ah oui, alors justement, Emmanuel Macron, alors ton solennel, je dis ça peut-être trop solennel, hein, enfin, on verra. Bon, on peut en discuter évidemment. Il intervenait quasi immédiatement après la décision de Donald Trump, justement, de s'asseoir sur cet accord de Paris. Make our planet great again. Ça sera vraiment la formule qui, depuis, a fait le tour du monde et qui, évidemment, va continuer. Bien sûr, on retiendra ça, évidemment, du début du quinquennat Macron. Nouveau président français. Discours dupliqué en anglais. Hein. Est-ce que ses deux prédécesseurs auraient fait autant? Je ne sais pas.
Ça, c'est le nouveau. T'es un président français qui parle aussi bien qu'anglais. Il y a une blague aux États-Unis qui circule. C'est que pourquoi Macron et Trump s'entendent pas? Parce que Macron parle beaucoup mieux anglais que Trump. Et je crois que c'est un peu ça. C'est un peu ça.
Macron, il se pose, il s'exprime au nom de l'Europe. Il prend, lui, le leadership quelque part, Mathieu
Guider.
Oui,
là, il le prend clairement. Oui. Il a une image extraordinaire. Il rajeunit l'Europe. Alors, il faut maintenant que ces réformes arrive pour qu'il puisse proposer. Il a un projet très précis, plutôt fédéraliste, on va dire. S'il arrive à le mettre en place, en particulier sur l'Europe de la défense et sur l'Europe sociale, pour simplifier, ça sera extraordinaire. Il passera dans l'histoire.
Mais cette idée même d'intervenir en anglais à destination des Américains et de leur dire, c'est quand même fabuleux, parce que depuis 1945, c'est en sens inverse, mais venez donc travailler en Europe.
Ouais,
venez avec vos cerveaux.
Nous, on est d'accord.
Ça, c'est, je crois que c'est un truc de communication. Il a compris que les États-Unis, c'est aussi beaucoup de com, beaucoup de presse, et là, c'est quelque chose de
très bonne communication politique, en effet, jeudi soir. OTAN, G7, climat, on va parler dans un instant de Poutine. Il y a eu aussi la rencontre avec le Premier ministre indien, Monsieur Modi, donc ce vendredi. Baptême du feu réussi pour Emmanuel Macron. La France a retrouvé un visage à l'étranger.
Très largement, et c'est un visage qui dépasse le cadre européen, et ça depuis longtemps. Et je crois que c'est quelque chose de tout à fait majeur. C'est un vrai tournant. Mais je vous dis, c'est un baptême réussi. Mais les commentateurs seront aussi sévères qu'ils étaient laudateurs.
Sur la Suisse,
à l'automne, il n'a pas réussi. Le président n'est pas réussi à porter sur la réforme du travail. Tout ça va très très vite en route d'instabilité majeure.
En tout cas, il y avait une séquence importante cette semaine. C'était lundi après-midi dans ce symbole de l'histoire de France, de l'excellence française, Versailles, pour une exposition d'ailleurs sur Pierre le Grand. Rencontre en tête-à-tête Macron-Poutine. Ça a duré donc 1 heure avant une conférence de presse. Discours direct, ferme, vraiment sans concession. Assez posé d'ailleurs dans le ton du président français sur les droits de l'homme, les droits des homosexuels, sur l'Ukraine également. Macron audacieux, Poutine un petit peu plus sur la réserve, en retrait, pas autant offensif que d'habitude, non?
Ah mais je crois d'abord que... Mais voilà encore, je dirais même que c'est surtout là qu'il y a eu un tournant. Parce que normalement les relations entre la France et la Russie, c'est soit-soit. Soit on fait l'économie, soit on fait les droits de l'homme. Et quand on fait les droits de l'homme, on fait pas l'économie, inversement.
Bien sûr.
C'est la première fois qu'un président français fait comme les Allemands et droits de l'homme et économie. Ça, il y a un vrai tournant, parce que combien de fois...
Quand Merkel va en Chine, elle vend des trucs, mais en même temps, elle dit, écoutez, votre démocratie, c'est pas terrible.
Et après, vous parlez un peu de retrait de Poutine, mais je crois qu'après avoir demandé pendant toute la campagne française des liens avec l'Europe et la France, les contacts, il les a, au plus haut niveau, et je crois que même lui... Et je reviens sur le fait qu'ils ont vraiment immédiatement dit qu'ils allaient maintenir l'accord de Paris pour la Russie. Je crois qu'il sait pas, il a un petit doute, mais maintenant que ça se remet en place, Il avait tellement projeté un effondrement, parce que tout le monde pensait qu'après le Brexit, il y aurait le Frexit, il y aurait le populisme. Ben, l'Europe est là, elle redémarre.
Elle repart là.
Elle fait une alliance avec la Chine. Et ben, les deux acteurs qui, encore il y a six mois, étaient forts, sont très déstabilisés.
Et puis, il y a évidemment le dossier syrien. On va en parler avec vous, Mathieu Guider, spécialement, avec Emmanuel Macron, qui a rappelé les lignes rouges de la France. On l'écoute, on revient tout de suite.
Mon souhait, c'est que nous puissions, là aussi, assurer la stabilité, la transition démocratique avec deux volontés profondes que j'ai réaffirmées dans le dialogue que nous avons eu avec le président Poutine. La première, c'est qu'une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Et donc, toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français.
Voilà, riposte immédiate, en tout cas de la part des Français. C'est pas un peu risqué quand même cet engagement? Moi, je me souviens de Barack Obama aussi.
Oui, en fait, le président Macron subit l'héritage d'une politique étrangère depuis le président Sarkozy, qui est très particulière. Il est pris à la fois dans cet héritage et entre deux feux, entre la position isolationniste quasiment américaine depuis le début et très interventionniste russe. Donc trouver, c'est une ligne de crête qu'il faut qu'il trouve là-dedans pour revenir un peu à la position qu'on a connue sous Chirac, sous De Gaulle, etc., où vous avez de grandes puissances et vous sifflez entre les deux, vous leur dites...
Et Mitterrand, n'oubliez pas Mitterrand.
Et Mitterrand, exactement, où vous dites à l'un, ce n'est pas bien, et vous mettez votre veto à la guerre en Irak, etc. C'est cette ligne de crête qu'il faut garder. Il l'a trouvé avec cette ligne rouge qui est les armes chimiques. Je pense que dorénavant, il ne cautionnera pas que les Russes cautionnent les armes chimiques. Il ne cautionnera pas non plus que les Américains interviennent pour tout et n'importe quoi sur cette zone-là. Donc il y a un retour, il y a un repositionnement de la politique française sur la Syrie. On va voir si on arrive à se repositionner sur ce territoire miné et très compliqué.
Oui, repositionnement aussi, on vient de l'entendre. Là, il souhaite plutôt l'idée d'une transition démocratique pour éviter une déstabilisation de l'État syrien, une fragilisation de la région. Ça veut dire quoi, Bachar al-Assad? Il reste pour l'instant, alors que son prédécesseur, François Hollande, a dit qu'il faut qu'il s'en aille.
En fait, c'est une politique d'étape. Il y a des priorités, il y a un temps pour la transition politique, il y a un temps pour les jugements, on se souvient quand même de l'ex-Yougoslavie. Je vais donner un exemple, où on a commencé quand même par faire la paix avec Karadzic, etc. Puis après, il se retrouve, il se retrouve à la Cour pénale internationale, etc. Donc il y a un temps pour la négociation, il y a un temps pour la paix, il y a un temps pour les jugements. Et je pense que c'est ce qu'on essaie de retrouver en France, parce que la position de tout ou rien, de dire le régime jamais et la paix, oui, mais etc., c'est pas tenable aujourd'hui.
Chaque chose en son temps. La Syrie, on y reviendra d'ailleurs dans un instant, plus les carnages à Kaboul, plus les massacres de chrétiens égyptiens. On en reparlera notamment avec Mathieu Guider, auteur de l'Atlas du terrorisme islamiste, l'auteur de la guerre des islamismes, et puis le professeur de droit européen Paris-Dauphine qui est Jean-Luc Sauron. On revient vite sur BFM Business avec la suite de 7 jours dans le monde.
BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et on est toujours avec Mathieu Guider, professeur des universités, islamologue réputé et qui publie donc l'Atlas du terrorisme islamiste. Allez voir, parce que si vous nous suivez à la télévision, on essaie de mettre des cartes régulièrement. C'est fondamental. Il a gardé justement un petit coin de sa tête. Il le met en pratique justement, l'idée d'expliquer, de décrire. Et puis, la guerre des islamistes, vous savez, cette guerre à la fois entre sunnites et chiites, mais même guerre à l'intérieur du courant sunnite, justement. Mathieu Guider s'est plongé, évidemment, dans ce monde musulman qu'il connaît si bien. Jean-Luc Sauron, toujours avec nous, professeur de droit européen à Paris-Dauphine. Oui, faites l'Europe par la guerre, une Europe qui apparemment reprend du poil de la bête, vous nous disiez il y a quelques instants. Alors, l'Afghanistan, c'est l'un des pires attentats à Kaboul depuis la chute des talibans en 2001. L'un des pires aussi depuis, eh bien, que la vague de terreur a repris, donc, il y a quelques semaines, quelques mois dans le pays. Mercredi, un camion piégé explose, donc, dans la capitale, dans le quartier des ambassades, quartier surprotégé, 90 morts et quelques centaines de blessés.
C'était vraiment très puissant et notre magasin a subi beaucoup de dégâts. L'un de nos employés a été blessé et emmené à l'hôpital. Je n'ai jamais vu une explosion aussi forte de ma vie.
Voilà pour ce témoin. Donc, alors qui, le porte-parole des talibans nie toute responsabilité, silence de l'État islamique. Oui, attaque qui survient donc quasiment un mois après celle d'une caserne où il y avait eu un massacre parmi des jeunes recrues. Mathieu Guider, Ça montre quoi, ce pays, finalement, toujours eh bien, en panne, malgré les efforts déployés, notamment par les Américains, efforts de reconstruction du gouvernement à Kaboul?
Oui, alors ça montre deux choses. La première, c'est que tout ce qu'on a fait en Afghanistan, malheureusement, ne donne pas de résultats. Cela fait 16 ans maintenant, 16 ans, bientôt 17 ans, qu'on est dans ce pays, qu'on fait la guerre, la reconstruction, la pacification, l'aide au développement, qu'on a essayé de mettre tout, on a tout fait. La lutte contre le terrorisme depuis 17 ans dans ce pays. Malheureusement, ça, les Afghans ne voient toujours pas le résultat. Donc il y a une vraie réflexion à mener sur ce qui se fait dans ce pays-là. Il y a plus de 30 pays qui sont engagés dans ce pays-là, y compris la France, dans le côté développement.
Il y a encore 8000 soldats américains. Est-ce que Donald Trump va renforcer ou pas le dispositif? C'est aussi
alors,
une question qui est posée.
Le problème, c'est qu'on a renforcé, on est allé jusqu'à quasiment 100 000.
Mais 100 000 à une époque, bien sûr.
Donc il est clair que l'option militaire n'est pas véritablement la bonne et qu'il va falloir travailler avec les acteurs régionaux, en particulier avec le Pakistan. Le Pakistan a une clé essentiel, Pakistan, l'Iran, les pays voisins.
Comment cette clé par
il faut les réunir autour d'une table. Ouais. C'est comme pour la Syrie, en réalité. Il faut les réunir autour d'une table. Chacun est en train de soutenir des acteurs particuliers dans ce pays-là.
Les talibans qui occupent 40% du territoire, qui contrôlent 40% du territoire afghan.
En plus, les talibans, ça fait 16 ans qu'on fait la guerre aux talibans, de façon sérieuse. Et pourtant, les talibans contrôlent à peu près la moitié du pays. Donc, ça, c'est le premier point, c'est que les stratégies mises jusqu'à présent n'ont pas fonctionné. Le deuxième point, c'est ce que je décris dans mon livre, la guerre des islamismes, si ça s'appelle comme ça, c'est parce qu'aujourd'hui, en réalité, ce que nous regardons de l'extérieur comme une guerre du terrorisme ou comme une guerre contre l'Occident n'est pas en réalité une guerre, elle est d'abord une guerre entre les musulmans. L'Afghanistan aujourd'hui, c'est une guerre entre sunnites et chiites d'abord, parce qu'il y a des partis sunnites et des partis chiites. Et à l'intérieur des sunnites, vous avez un courant qui est plutôt le courant des talibans, qui sont des sunnites d'un certain courant, peu importe, on ne va pas rentrer dans le détail. Vous avez d'autres sunnites qui sont plutôt du côté pakistanais. Vous avez d'autres sunnites qui sont plutôt modérés, on va dire, qui sont plutôt modernistes. Donc il y a une vraie guerre de religion. Et l'Afghanistan subit cette guerre au jour le jour. Et nous, quand on intervient en réalité pour aider un parti ou un autre, on ne fait que rallumer et rajouter à la guerre de religion interne.
Juste les positions de l'État islamique apparues en 2015 en Afghanistan, quelles sont-elles?
Alors, comme partout ailleurs, l'État islamique vient dans une guerre interne et profite des divisions entre les partis. Il se positionne en disant « ce sont tous des mécréants, je suis le seul qui soutient la vérité ». C'est ça ce qui s'est passé en Irak, en Syrie, en Libye également. Il a profité des factions qui se tuent entre elles pour se positionner, pour dire « unifiez-vous autour de moi ». En Afghanistan, c'est exactement la même chose. Il profite du chaos généralisé, de la guerre interne, pour se positionner, recruter tous les déçus des autres courants.
Jean-Luc Sauron.
C'est un conflit qui a un grand impact sur l'Europe, parce que les Afghans, c'est un des trois gros contingents de migration.
Migrants, bien sûr.
Migrants, Syrie, Afghanistan et Corne de l'Afrique. Donc, l'Europe ne peut pas se désintéresser en disant, bon, qui se tue, parce qu'en réalité, ça enclenche des déplacements de population qui ont comme pas terministe, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'Afghans en Allemagne, en France. Enfin, la question migratoire qui est débattue en Europe, elle a une de ses origines en Afghanistan.
Alors, Daesh, qui gagne du terrain aussi aux Philippines. Alors là, on est vraiment dans l'extrême Orient, hein. On est dans l'Asie, on est dans l'Asie du Sud-Est. Hein. Alors, incertitude hein, sur l'attaque du casino de Manille, il y a une quarantaine de morts. Mais ce dont je voulais vous parler surtout, c'est depuis des jours, ces affrontements justement violents, il y a même des bombardements sur l'une des grosses îles des Philippines qui opposent l'armée à des combattants islamistes, hein, retranchés dans la ville de Marawi, sur l'île de Mindanao, dans une région autonome musulmane. Les insurgés, ils appartiennent à Abu Sayyaf qui a fait allégeance à l'État islamique, Mathieu Guider.
Tout à fait. D'abord, rappelons que les deux tiers des musulmans sont asiatiques.
Oui.
Que le plus grand pays musulman, c'est l'Indonésie.
300 millions d'habitants.
Exactement. Donc, il faut le rappeler, parce qu'on a tendance à oublier.
À les circonscrire au prochain Moyen-Orient, bien sûr.
Par ailleurs, les Philippines sont l'un des grands pays musulmans. Ils ont une communauté musulmane très importante.
Même s'il y a une majorité quand même de catholiques.
C'est une majorité de catholiques, mais il y a quand même tout le sud.
Bien sûr, vous avez raison.
maintenant. Et donc, ils ont un groupe qui est très implanté depuis très longtemps, depuis le début des années 90, qui s'appelle le groupe Abu Sayyaf, qui est un groupe islamiste qui milite pour l'indépendance, carrément. Il veut créer un État séparé pour les musulmans sur l'île de Jolo, là où il est. Et ce groupe, il est passé par toutes les étapes. Il a été allié à la fois des talibans à un moment donné. Ensuite, il a été allié d'Al-Qaïda. Et puis, à chaque fois, il suit, en fait, le plus fort à un moment donné. Et donc, en 2015, lorsque l'État islamique était au sommet de sa puissance, il va prêter allégeance, le chef de ce groupe va prêter allégeance à l'État islamique. Il va donc vouloir créer une province du califat. C'est ainsi, quand on prête allégeance à l'État islamique, il faut créer une province là où vous êtes. Donc il va vouloir créer une province du califat aux Philippines. Sur cela, bien évidemment, les autorités philippines et l'armée vont réagir. Il a depuis quelque temps, comme il a pris le contrôle villages, de villes entières, comme d'ailleurs ça s'est fait en Syrie, en Irak, au Nigeria, au nord du Nigeria. Chaque fois que l'État islamique, en Libye, chaque fois que l'État islamique s'implante, il essaie de prendre contrôle des territoires et des villes, eh bien l'armée a réagi, et là, elle bombarde depuis
Elle a du mal apparemment. Et l'État islamique recrute localement, un petit peu comme on l'a vu dans le Caucase, comme on l'a vu en Afrique de l'Ouest, les recrutent des Indonésiens, des Malaisiens et donc des Philippins.
Oui, le problème est toujours le même, c'est que la solution ne peut pas être militaire face à des groupes d'insurrection locaux. C'est très compliqué, donc il faut une solution politique. Et donc tant que, bien sûr, il faut réduire les terroristes, c'est une évidence, parce que là, quand ils prennent le contrôle de casernes, par exemple, il faut absolument les sortir de là, mais évidemment, la solution ne peut être que politique, il faut proposer aux populations une solution politique d'intégration, de non-marginalisation, une solution qui permette à ces gens de ne pas rejoindre ce type de groupe.
Alors, violence islamiste qui a frappé à nouveau les Coptes d'Égypte, il y a un petit peu plus d'une semaine, c'est un groupe d'ouvriers qui tentait de rejoindre le monastère Saint-Samuel de Deir el-Garmous pour aller y fondre des cloches, ainsi que deux autres véhicules de fidèles qui ont été interceptés donc par des hommes armés, cagoulés, qui les ont fait descendre, qui leur ont fait réciter la profession de foi musulmane et les chrétiens ont été abattus d'une balle dans la tête, il y a 29 morts. L'État islamique qui a promis donc de multiplier les attaques contre la communauté chrétienne. La Haute-Égypte, c'est un bastion chrétien dans le pays.
Oui.
Il n'en reste que... Il y en a de moins en moins. 8% à peu près maintenant des chrétiens.
Non, rappelons quand même que les chrétiens d'Égypte, c'est la première communauté d'Orient. On est à 10% de la population qui est chrétienne.
C'est 10%, j'avais vu 8%, d'accord.
10% de la population. L'Égypte, c'est 90 millions d'habitants. Au niveau de l'Égypte, ça fait quasiment 10%, 10 millions. C'est quelque chose de considérable.
Et implanté depuis bien, bien longtemps.
Mais évidemment, ils sont implantés avant les musulmans, puisqu'ils sont chrétiens. Voilà. Mais cela ne change rien. Ce sont des Égyptiens avant tout. L'État islamique, ici, le signale ces attentats, signale la faillite de la stratégie qu'il a faite. Parce que le gouvernement de Maréchal Al-Sissi, depuis 2013, se bat au Sinaï contre l'État islamique. C'est une guerre permanente dans le Sinaï. Il a pris le contrôle d'un certain nombre de localités. Il est en train de prendre le dessus sur l'État islamique dans le Sinaï. Du coup, l'État islamique est en train de transférer cette guerre dans les centres urbains. Et bien évidemment, la cible en fait molle dans ces villes-là, c'est bien évidemment les chrétiens. Il est en train d'essayer de séparer les populations sur des bases confessionnelles, c'est-à-dire de dire aux Égyptiens, vous avez des Égyptiens musulmans et des Égyptiens non musulmans. C'est ça la stratégie. Là, c'est un tournant. Pour l'instant, ça tient parce que le gouvernement protège énormément les populations. Mais si, à un moment donné, il y a une faille qui se met en place entre le gouvernement d'Al-Sissi, qui est pro quand même chrétien dans ce pays, et le reste, nous aurons une guerre civile. C'est clair, l'enjeu de ces attentats, c'est vraiment la guerre civile en Égypte.
Et il avait reçu le pape il y a quelques semaines, Al-Sissi, donc au Caire.
Il a été menacé de mort pour
voilà,
ça. Hein.
Voilà. Il fait suffisamment donc pour protéger les chrétiens d'Égypte.
Il fait ce qu'il peut en tout cas, parce qu'il a un front au Sinaï dans lequel il a mis énormément, il a acheté énormément d'armes et il se bat. Il se bat par ailleurs, de l'autre côté, en fait, il est pris en tenaille, l'Égypte.
La Libye.
Entre la Libye. Vous avez vu qu'il a bombardé également.
Des bases de combattants djihadistes.
De combattants djihadistes.
Après l'attentat.
Sharia, à Derna, parce que les kamikazes venaient de Libye. Donc il est sur deux fronts d'un côté. Et donc il fait tout ce qu'il peut pour protéger sa population, ses Égyptiens qui se trouve être chrétien, mais bien évidemment, ce n'est pas suffisant. Il n'a pas les moyens vraiment pour assurer la sécurité de tout le monde dans ce pays.
Jean-Luc Sauron.
Moi, je ne partage pas le compliment fait au président Al-Sisi, parce que bien évidemment, l'enjeu de Daesh, c'est de séparer les musulmans des chrétiens en Égypte. Il y a quand même une série d'attentats qui montraient quand même que la police n'était pas d'une sévérité énorme sur la protection des lieux de prière chrétiens, que là c'est une route où tous les jeudis il y avait, enfin tout le même jour il y avait des bus qui allaient vers ce centre, toutes les semaines le même jour, que la route est absolument pas sécurisée et qu'après l'attentat les familles sont arrivées avant la police sur les lieux du drame. Donc je pense qu'il y a et c'est pas tellement que Sisi soutient les chrétiens, c'est que les chrétiens font le pari d'Al-Sisi contre la domination musulmane dans la société égyptienne. Donc ça, il y a une double contradiction, enfin à mon sens.
Bon, ce n'est pas moi qui ferai l'éloge du maréchal Sisi, hein. Mais aujourd'hui, sans lui, ça serait le massacre, ça serait la guerre civile, c'est très clair. Et deuxièmement, on peut pas comparer, je crois, la maîtrise sécuritaire en Égypte avec ce que l'on pourrait faire dans les pays tels que la France, l'Allemagne et les États-Unis. On est dans, c'est très compliqué. La police n'est pas très bien formée. Il n'est pas formé nécessairement à la lutte antiterroriste. C'est très très compliqué. Et on essaye de trouver des solutions. Évidemment qu'il faut protéger davantage. Je ne dis pas qu'ils sont bien protégés. Oui. Les chrétiens d'Égypte subissent un martyr.
C'est pour ça, je partage un peu les doutes de Jean-Luc Sauron d'après tous les témoignages qui nous ont été livrés.
Bien évidemment. Mais aujourd'hui, l'État égyptien, tel que je l'ai indiqué, il est pris en tenaille, en Sinaï, en Égypte. Et à l'intérieur, il y a des attentats tous les jours contre les policiers, policiers égyptiens et l'armée égyptienne. Tous les jours, entre 5 et 10 personnes sont tuées, voire égorgées en Égypte.
Et rappelons-le, la plupart des attentats islamistes visent avant tout les pays musulmans. Oui, voilà, il y a eu Manchester, bien entendu, il y a eu Paris, il y a eu Bruxelles, etc. Mais c'est quand même principalement des pays musulmans qui sont touchés. Juste, question, Mathieu Guider, cette semaine marquait les 50 ans, le 50e anniversaire de la guerre des 6 jours, donc. Depuis cette victoire éclair d'Israël, depuis cette défaite des pays arabes, est-ce que l'Égypte s'en est vraiment remise ?
Non, je crois que ça reste vraiment le choc psychologique est encore là. D'ailleurs, ça a été commémoré avec toujours la honte. Toujours, les pays arabes ne se sont pas remis de cette défaite. Et l'Égypte, en plus, elle a confirmé cela par des accords Camp David, qui sont considérés à l'époque. L'Égypte a été mise à l'écart.
Bien sûr.
Des pays arabes
traîtres,
sont considérés comme traîtres.
Bien sûr.
Donc, non, on n'a pas encore cessé de subir les effets de cette défaite.
Le leadership égyptien dans les pays arabes, il est tombé cette année-là.
Il est vraiment très entamé aujourd'hui pour différentes raisons, pour des faiblesses internes, mais aussi pour des faiblesses dans la politique étrangère de l'Égypte. C'est une situation très compliquée aujourd'hui.
Juste une petite question avant qu'on se quitte. Manchester, Jakarta, l'Égypte, Bagdad, il y a aussi plusieurs gros attentats encore cette semaine dans la capitale irakienne. Est-ce qu'il y a une recrudescence des attentats depuis 10 jours, oui ou non?
Non, pas recrudescence, mais par contre, Manchester signe le déplacement de centres de gravité terroristes du Proche-Orient vers la Libye. C'est la première fois où on a la conjonction entre un individu qui est bien implanté sur le territoire libyen, avec l'État islamique, des connexions avec les islamistes et les djihadistes libyens, et en même temps qui fait des attentats au nom de la guerre en Irak, de l'intervention britannique en Irak, et qui le fait sur un pays occidental. Donc on a le début, probablement dû à la défaite en cours de l'État islamique en Irak et en Syrie, on a un déplacement des djihadistes et des terroristes vers plutôt la Libye.
Ce n'est pas la première fois que des individus de nationalité européenne, belge ou française, font les attentats contre leurs compatriotes.
Oui, mais pas d'origine libyenne.
Pas d'origine libyenne, c'est le premier.
Je veux dire, c'est quand même aussi quelque chose qui, malheureusement, montre que le contrôle frontière ne résout pas tout.
Non, ça...
On se retrouve dans un instant, toujours avec Mathieu Guider, avec Jean-Luc Sauron, 7 jours dans le monde. Oui, on va revenir justement sur le combat contre l'État islamique avec les forces irakiennes qui progressent donc en direction du centre de Mossoul. Et puis les milices qui apparemment s'apprêtent à prendre la suite. On verra justement lesquelles et dans quelles conditions. À tout de suite.
BFM Business, 7 jours dans le monde. BFM Business, l'info internationale à la une. 7 jours dans le monde, présenté par Fabrice Lundy.
Et on continue 7 jours dans le monde pendant encore quelques minutes en compagnie de Mathieu Guider, professeur des universités, islamologue, agrégé d'arabe, et puis Jean-Luc Sauron, professeur de droit européen à Paris Dauphine. Alors, Daesh, dont on a beaucoup parlé, encore quelques minutes, qui continue de refluer en Irak, à Mossoul notamment, les forces irakiennes, spécialement les forces spéciales irakiennes, qui continuent de progresser. Où est-ce qu'on en est de cette offensive qui avait démarré mi-octobre, de mémoire, Mathieu Guider?
Oui, alors la première remarque, c'est que l'État islamique a une capacité de résistance, de résilience extraordinaire. C'est quand même un groupe, on parle d'un groupe terroriste qui a tenu cette ville face à peu près 60 pays engagés, face à des forces spéciales de tous les pays, face à des bombardements tous les jours, depuis 9 mois.
Ça a surpris.
C'est extraordinaire. Ouais. Ça veut dire qu'il faut apprendre. Je pense que tous les stratèges, tous ceux qui s'occupent de la doctrine militaire doivent savoir que désormais les guerres du 21e siècle ne se passeront pas de la même façon qu'un groupe terroriste peut tenir une ville de 2 millions
d'habitants. Regardons les Philippines dans un autre genre.
Exactement.
Dont on parlait quelques instants.
Non, mais ça veut dire qu'on a changé de doctrine, de méthode, de moyens de lutte. Il y a un changement complet de paradigme à avoir sur ce plan-là. Aujourd'hui, donc, au bout de 9 mois de lutte, il reste un quartier, une partie de la ville qui est encore tenue par le groupe État islamique, et on évalue en un mois à peu près pour la reprendre, alors qu'on a des bombardements et tout cela. Donc le groupe a montré, il a appris, donc il y a un apprentissage qui se fait là-dedans. Il finira par être vaincu, c'est-à-dire par sortir de Mossoul, reprise par le gouvernement irakien, mais à quel prix ? Parce que la ville est vraiment détruite, très largement détruite. Il y a beaucoup de civils qui sont morts. Il y a plus de 300 000 personnes qui
sont encore sur place. Voilà, avec le gouvernement qui les appelle à partir.
Exactement. Ouais. Et donc, mais à quel prix pour un seul groupe qui a pris, en juin 2014, cette ville?
Oui, Jean-Luc Sauron.
C'est entre guillemets, une modernité de la situation. Mais si vous prenez, par exemple, la direction du pacte de Varsovie, de la ville de Varsovie pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont pu résoudre le problème parce que ils n'ont eu aucune humanité dans le traitement, des insurgés du ghetto. Là, bien sûr qu'il peut y avoir des bavures, des dommages collatéraux, mais tant les nationalités, tant les armées de la coalition, même que des milices, ne font pas, le table rase. C'est-à-dire, il y a quand même une certaine volonté de protéger les civils. On parlait des déplacements des civils demandés par le gouvernement irakien, et on sait que les gens de Daesh les abattent. Ils empêchent de sortir, donc quand même, ils jouent au bouclier humain. C'est un peu ce qu'on avait eu dans la guerre entre Israël et le Sud-Liban, lorsque le Hezbollah se mettait dans des immeubles d'habitation, bien même l'armée israélienne n'arrivait pas à dégager les gens, parce que il y a le souci de ne pas tuer des gens innocents.
Ouais, et en attendant, dans les villes et les villages qui ont été repris à Daesh, Mathieu Guider, apparemment des milices chiites s'installent. Qui sont ces milices, justement? Quelles sont leurs intentions? Comment le gouvernement irakien à Bagdad les contrôle, oui ou non?
Alors, c'est là le côté négatif, peut-être, de cette reprise, c'est que la société irakienne s'est confessionnalisée et tout le monde est armé. Et elle s'est militarisée, et cette militarisation s'est accompagnée d'une confessionnalisation. C'est-à-dire que le gouvernement, comme il n'a pas assez de monde, il a mobilisé des milices qui sont de confession chiite exclusivement, qui ont eu des fatwas de leur autorité religieuse, qui s'appelle Sistani, pour qu'elles puissent aller tuer d'autres musulmans dans des villes et qui puissent éventuellement être des martyrs. On parle de la division d'or, c'est celle-là qui reprend la ville.
Les forces spéciales irakiennes.
Mais cette force spéciale irakienne, pourquoi ils arrivent? C'est parce qu'ils sont aussi radicaux et aussi extrémistes. Qu'en face, c'est-à-dire qu'en face, ils se font exploser quasiment à tous les bouts de champ, en face, on a des gens qui sont prêts à mourir également. Et donc, certes, aujourd'hui, ça arrange le gouvernement irakien de reprendre les villes, mais il va falloir par la suite qu'il gère des milices fanatisées qui sont très, très confessionnelles et qui sont très bien armées.
Dans des villes sunnites.
Naturellement, ils ne peuvent pas tenir ces villes indéfiniment. Donc, ce qu'on assiste aujourd'hui, c'est soit des exactions de la part de ces milices, soit des rejets sur le long terme, et on sait qu'ils pourront pas tenir les villes indéfiniment parce que vous êtes minoritaire dans des villes majoritaires. Et c'est là l'inconvénient majeur, il n'y a pas de solution politique. Aujourd'hui, c'est ça le problème fondamental de cette affaire.
Et la question se posera également dans le nord de la Syrie, quand l'offensive, qui apparemment prend du retard sur Raqqa,
forte résistance actuellement du côté de Tabqa, on est sur l'Euphrate, hein, donc avec ces combats menés par les FDS, les forces démocratiques syriennes, oui. Il y a beaucoup de Kurdes hein, également.
Oui, oui. Voilà. Alors les Kurdes, rappelons-le, c'est des sunnites, c'est-à-dire ils sont
oui,
de la même
ils sont Kurdes. Voilà.
Ils sont pas Kurdes. Voilà. Oui, mais là on a des gens qui militent pour un État ethnique, ethnique. Alors que de l'autre côté, on a qui militent pour un État confessionnel,
et religieux,
ils
exactement.
Un État religieux. Mmh. Donc moi, bien sûr, ça aujourd'hui, ça nous arrange que les Kurdes fassent la guerre pour nous. Contre l'État islamique dans ces régions-là. Mais il faut savoir que par la suite, la Turquie n'est pas du tout d'accord, n'est pas du tout d'accord sur le fait de création d'un État ethnique non. dans cette région-là. Donc, tous ces aspects-là, conjoncturellement, sont positifs. Mais sur le long terme, je ne suis pas sûr que c'est une solution faisable. Il faut absolument qu'il y ait là encore une solution diplomatique et politique. Et elle ne peut se faire qu'avec les acteurs régionaux. Il y a des acteurs majeurs qui tiennent la clé. L'Iran, l'Arabie Saoudite, la Turquie. Dans cette partie-là, on ne peut rien faire, ni en Syrie, ni en Irak, sans ces trois acteurs-là.
Une question à poser à Mathieu. Est-ce que le discours de Trump en Arabie Saoudite, pointant l'Iran comme
l'axe du mal,
du mal, est-ce que ça rend pas impossible un poids politique des États-Unis dans cette région? Parce que a tellement s'écarter de l'Iran, enfin, ça m'a paru là encore. Pas génial comme démarche, mais...
Alors, c'est véritablement le pacte du Quincy qui est refait. Tous ceux qui ont connu se souviennent de ce pacte entre Roosevelt et le fondateur de l'Arabie Saoudite.
1932...
Non,
1945, bien sûr, c'était début 1945.
Il a refait le pacte, il a refait avec un chèque extraordinaire, 300 milliards. Enfin, on ne se rend pas compte.
C'était le pacte approvisionnement de pétrole contre sécurité.
Donc, il y a, en fait, pour simplifier, il y a un pacte entre les sunnites et Israël. Il met les chiites au milieu, c'est-à-dire l'Iran. Ça va être très compliqué d'entrer dans le jeu, parce qu'on a deux acteurs majeurs, l'Arabie Saoudite et Israël, dont les intérêts aujourd'hui convergent avec un soutien américain massif, massif à l'Arabie Saoudite et à Israël. Je ne sais pas où l'Europe pourra trouver sa position dans ce pacte moyen-oriental.
Un pacte signé début 45, quelques jours avant la disparition de Franklin Roosevelt.
Tout à fait.
Exactement, donc avec Ibn Saoud. Un mot pour terminer, c'est le Wall Street Journal qui l'affirmait. La France fait appel aux forces irakiennes pour éliminer des djihadistes français présents à Mossoul. Une liste de 27 noms aurait été communiquée. Question posée donc au porte-parole du gouvernement, Monsieur Castaner, donc en milieu de semaine au Conseil des ministres. Il s'est contenté de rappeler que les Français qui rejoignent l'État islamique doivent en assumer le risque d'être tués. Bon. Est-ce qu'il fallait parler de cette histoire, au fait, Mathieu?
Non, je ne crois pas. C'est une très mauvaise idée. Ouais. D'abord, ce qui relève des opérations extérieures, ce qui relève de la coopération antiterroriste, ne doit pas être mis sur la place publique.
Y compris dans un livre, avec des propos de l'ancien président de la République.
Pour une raison toute simple, c'est qu'on est dans une démocratie et un président, quel qu'il soit, ne peut pas dire qu'il a ordonné de tuer d'autres citoyens, quel que soit ce qu'ils font. On a aboli la peine de mort, pas pour rien. Il faut qu'il y ait
un pouvoir judiciaire. Hollande mettait ça au nom de la légitime défense.
Non, mais on est d'accord.
Évidemment, voilà, on est d'accord avec Mathieu, mais je veux dire, en plus, vu les combats, les milices sont pas là avec un petit cahier.
Oui, c'est
bien lui.
C'est ridicule.
Qu'est-ce qu'il est barbu, c'est bon. Il a une Kalachnikov, c'est bon. Enfin, ça m'a paru moins et un peu plus un scoop de presse.
De la com, c'est de la com.
Qu'une vraie information.
Ce n'est pas très bien. Ce n'est pas très bien de faire cela.
Merci à tous les deux. Passionnant ce 7 jours dans le monde en compagnie de Mathieu Guider. Précipitez-vous donc la guerre des islamismes et puis l'atlas du terrorisme islamiste. Prenez les deux, hein, d'Al-Qaïda à Daesh avec des cartes hein, justement sur toutes les implantations dans le monde entier justement de ces mouvements islamistes. Merci à vous Mathieu Guider. Merci Jean-Luc Sauron. Jean-Luc Sauron, faites l'Europe, pas la guerre. Voilà, l'Europe qui reprend du poil de la bête, vous nous disiez. Donc merci à tous. C'est fini donc. On se retrouve vite la semaine prochaine sur BFM Business.
BFM Business, 7 jours dans le monde.